que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, la fois.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sous Radio Canu et vous écoutez le Canu Info du lundi et on commence tout de suite avec les titres.
À l'international, on ira voir en Biélorussie que Loukachenko est toujours manette. Avant de prendre des nouvelles du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on verra que l'impérialisme français, quant à lui, a de beaux jours devant lui, notamment grâce à Emmanuel Macron. Avant de prendre des nouvelles de ce qui se passe aux États-Unis et du mouvement Black Lives Matter et d'un nouveau mouvement, le Blue Lives Matter.
Quel accent ?
Après une petite pause musicale, on enchaînera avec le national où on commencera par parler de cet amendement anti-squat et puis d'un projet de fichage des locataires. On enchaînera avec les licenciements qu'on attendait chez Bridgestone. Pour parler ensuite de la lutte à l'hôtel Ibis des Batignolles. Et puis, ça fait un an depuis l'accident à Lubrizol. On en reparlera. On parlera ensuite des CRA et d'une nouvelle méthode pour expulser plus facilement. Et on lira enfin un communiqué sur le suicide de Douna.
Et on terminera l'émission en compagnie de membres du collectif des sans-papiers 69 qui viendront nous parler de la marche des solidarités.
Et on commence tout de suite avec les brèves.
Un rapport qui a été publié par France Stratégie et dévoilé la semaine dernière nous a appris que le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, entré en vigueur en 2013, avait, tenez-vous bien, permis de créer plus de compétitivité que d'emplois. Il a coûté 18 milliards d'euros par an et permis de créer à peine 100 000 emplois directs. J'ai fait le calcul et ça représente quand même 1,3 million d'euros par emploi. Des emplois bien payés donc. On est en train de transformer le père en une seconde mère, a commenté Éric Zemmour à propos de la proposition de mise en place d'un congé paternité. Tant qu'on ne transforme pas les pères en second Zemmour, on est sauvé. Zemmour, toujours condamné pour injure publique et incitation à la haine raciale, que de 10 000 euros, mais ça fait toujours plaisir. En Italie, Uber et Deliveroo s'allient à un syndicat d'extrême droite pour bafouer les droits des travailleurs. L'organisation patronale Asso Delivery, auquel appartiennent justement Uber et Deliveroo, s'est allié au syndicat UGL, proche de l'extrême droite italienne, pour parvenir à un accord permettant aux plateformes numériques de livraison de repas à domicile de contourner ses obligations sociales envers ses salariés. Dans le secteur de la livraison à vélo, patronat et extrême droite forment un beau tandem. Et enfin, les chiffres sont tombés. 62% des Français et des Françaises veulent interdire le décolleté à l'école, 55% le croc-top, alors que 66% sont contre les tétons qui pointent. Ces chiffres sont ceux du sondage de l'IFOP sur les tenues acceptables pour les Français à l'école, qui ne dit en revanche rien pour les Marcel.
Évidemment.
Alors qu'il y aurait fort à dire.
Et on passe tout de suite à l'international, où on va prendre des nouvelles de Loukachenko.
Oui, au pouvoir depuis 1994, Loukachenko a été élu pour la 6e fois président le 9 août dernier, ce qui a entraîné des contestations d'ampleur. Depuis, fraude électorale, destruction des acquis sociaux, autoritarisme sont massivement dénoncés par les manifestants dans tout le pays. Il y a des grèves et des manifs tous les dimanches, on compte déjà plus de 10 morts et des milliers d'arrestations. Il est bien révolu le temps où Loukachenko pouvait légitimement se poser comme rempart à la thérapie de choc libérale et comme garant d'un système social solide. Ça, c'était avant, c'était au début des années 90. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. L'autocratisme du dirigeant biélorusse n'a cessé d'enfler et la répression qui l'accompagne aussi. Loukachenko s'est assuré sa mainmise sur l'État grâce aux bonnes vieilles méthodes soviétiques de bureaucratisation du régime, n'hésitant pas, pour parvenir à ses fins, à museler les syndicats du pays et à fragiliser le secteur public. Depuis la crise ukrainienne en 2013, Loukachenko se voit fragilisé. Il se méfie à la fois des Occidentaux et des Russes. Et il dénonce toute remise en cause de sa propre légitimité comme le fruit d'une machination étrangère, c'est la fameuse thèse de la révolution colorée. Eh ben oui. Dans le même temps, les conditions économiques du pays se sont dégradées. Les salaires ont été gelés depuis 5 ans, la dette publique est passée à 50% du PIB et les conventions collectives disloquées au profit de contrats précaires. Depuis sa réélection en août, Loukachenko est donc très fragilisé. Il est critiqué par l'opposition qui est cristallisée autour de 3 femmes, en partie quand même liées au monde des affaires, dont Tchikasnavaya, est devenu la figure majeure, mais il est aussi lourdement critiqué par les travailleurs et les travailleuses d'entreprises d'État. Après avoir donc critiqué l'ingérence russe, l'autocrate biélorusse se tourne désormais vers Poutine pour lui demander de l'aide. Tout en voulant maintenir sa sphère d'influence, Poutine, lui, ne veut pas d'un scénario à l'ukrainienne. Il reste prudent. D'un côté, il ne veut pas que le mouvement populaire installe quelqu'un qui serait incompatible avec les intérêts russes. Et de l'autre, il ne veut pas non plus maintenir Loukachenko en place. Dans cette perspective, c'est l'option d'un référendum constitutionnel qui semble privilégié. Pendant ce temps, on a eu le droit à une petite sortie de Macron qui déclare, je cite, « Ce qui se passe en Biélorussie, c'est une crise de pouvoir, un pouvoir autoritaire qui n'arrive pas à accepter la logique de la démocratie et qui s'accroche par la force. Il est clair que Loukachenko doit partir. » Allez Manuel, encore un petit effort, t'as fait un premier pas vers l'autodiagnostic.
Et donc, je me souviens même plus dans quelle rubrique on est.
On est à l'international. C'est quoi l'international ?
On va voir.
Et on enchaîne maintenant avec un sujet.
International.
Ah, c'est toujours aussi Karel qui a du info du lundi. Mais on progresse, hein, on a des beaux
projets. On est bien dans la rubrique internationale.
Et on part maintenant prendre des nouvelles du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où un seul mot d'ordre vaut « mort à la guerre, mort au capital ».
Et oui, vous avez sans doute entendu parler de la reprise des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ce dimanche. Hostilités qui ont fait au moins 58 morts du côté des séparatistes arméniens et plus d'une centaine de blessés, dont des civils. Alors les deux camps semblent bien décidés à mener l'offensive pour récupérer un territoire disputé depuis près de 100 ans, le Haut-Karabakh. Alors l'Arménie, elle a appelé à la mobilisation générale de tous les hommes de plus de 18 ans, donc c'est un conflit assez sérieux. Aujourd'hui, les deux capitales se rejettent la responsabilité de l'origine de ce conflit, donc qui s'est particulièrement intensifié ce dimanche avec des tirs d'artillerie, pardon, mais aussi des bombardements aériens de la part de l'Azerbaïdjan. L'armée azérie aurait même pris le contrôle de plusieurs villages et limité l'accès à Internet pour, je cite, « éviter des provocations arméniennes ». Alors essayons d'y voir un peu plus clair dans ce conflit qui oppose Erevan, la capitale arménienne, et Bakou, son ennemi azerbaïdjanaise. Le Haut-Karabakh, c'est donc une région située au sud-ouest de l'Azerbaïdjan. La rivalité des deux pays sur la souveraineté de cette région est longue. En fait, ils se disputent depuis plus de 100 ans trois régions spécifiques, le Nakhitchevan, le Sionik et le Karabakh. Ces conflits expliquent le morcellement de l'ensemble de la zone. L'Azerbaïdjan est donc coupé dans sa partie occidentale. On vous mettra même une petite carte sur le blog du Canu Info pour comprendre un peu mieux. Pour ce qui est du Haut-Karabakh, il est rattaché à l'Azerbaïdjan en 1921 par les autorités soviétiques, mais sa population reste majoritairement arménienne. En 91, au moment de l'effondrement de l'URSS, la région proclame unilatéralement son indépendance, avec donc bien sûr le soutien de l'Arménie. S'ensuit une guerre très meurtrière qui fera plus de 30 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. En 1994, un cessez-le-feu est signé. Le Karabakh reste donc sous le contrôle du gouvernement de la République du Haut-Karabakh, qui a sa propre armée, les forces armées du Haut-Karabakh. Alors, à la suite de ce conflit, dans un bel, élan impérialiste et n'ayant foi que dans la, gérance, une médiation est proposée par la Russie, les États-Unis et la France. Une fois n'est pas coutume, j'ai l'impression que c'est une des thématiques de cette émission. C'est donc le groupe de Minsk. Alors, comme d'hab, hein, c'est bien bien utile, hein, puisque depuis, le conflit est toujours sous-jacent et il y a régulièrement des accrochages armés. Alors, l'ampleur de ce week-end laisse toutefois présager une situation un peu plus compliquée. La dernière fois qu'il y a eu autant de morts, c'est en 2016. Et là, il ne semble pas être en passe de se régler. Alors, quelques éléments rapidement sur les deux pays. L'Arménie, c'est un pays chrétien avec une histoire très tumultueuse, notamment avec la Turquie. C'est un pays qui est indépendant depuis 1991. C'est un État particulièrement pauvre qui a connu des dirigeants très autoritaires et corrompus et de grandes vagues de répression. Depuis 2018, le pays est en voie de démocratisation, je le dis avec de gros guillemets. Hein. L'Azerbaïdjan, de son côté, c'est un pays chiite qui est sous le contrôle d'une seule famille depuis 1993, c'est la famille Aliyev, dont le père, donc le premier dirigeant, est un ancien général du KGB. Il a passé le pouvoir à son fils Ilham en octobre 2003, juste avant de mourir. Et Ilham dirige depuis le pays d'une main de fer, hein, à l'instar de son père. Alors ce conflit, vous imaginez bien, il ne concerne pas uniquement ces deux seuls pays. L'Azerbaïdjan, c'est un pays très riche en hydrocarbures. Il se trouve être donc le principal allié de la Turquie dans la région. Donc bien entendu, parce qu'il est important géostratégiquement pour la Turquie. Mais cette amitié est bien sûr largement renforcée par l'hostilité des deux pays pour l'Arménie. Erdogan a d'ailleurs déjà désigné l'Arménie comme, je le cite, le plus grand obstacle à la paix dans la région, et il appelle les Arméniens à se révolter contre leur leader qui, je le cite encore, les amène à la catastrophe. L'autre grande puissance régionale qui est très influente dans la région, c'est la Russie. Ça n'est pas coutume. Alors la Russie, elle entretient des relations plus étroites avec l'Arménie qu'avec l'Azerbaïdjan, mais elle fait commerce d'armes dans les deux pays. Sur le plan militaire, d'ailleurs, l'Arménie est bien loin des moyens de l'Azerbaïdjan, qui s'est montré particulièrement motivé dans la course à l'armement ces dernières années, ce qui laisse présager une guerre très meurtrière si d'aventure le conflit continuait à s'intensifier. Alors, à voir s'il s'intensifie, parce que je le disais tout à l'heure, l'Azerbaïdjan, c'est un pays exportateur d'hydrocarbures, mais qui aspire aussi à exporter son gaz vers l'Europe. Donc, il y a des gisements dans la mer Caspienne. Il y a déjà un pipeline qui va de l'Azerbaïdjan à la Turquie. L'idée, c'est de prolonger ce pipeline vers l'Europe. Le contrôle du Haut-Karabakh est donc essentiel pour la pérennité de ces projets. Pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour la Turquie, qui a quand même de grosses ambitions de ce point de vue-là, puisqu'elle souhaite se positionner comme un peu le centre du transit international de gaz vers le marché européen. Donc les différents projets turcs pour avoir la mainmise sur le gaz à destination de l'Europe, ils font concurrence bien évidemment aux ambitions russes sur ce terrain-là. On peut donc imaginer que les États impérialistes du groupe de Minsk vont tenter d'enrayer ce conflit. Alors déjà, pour éviter de laisser à la Turquie cette mainmise sur l'exportation de gaz, mais aussi pour éviter de rendre plus instable la région, ce qui la rendrait beaucoup moins attrayante pour les multinationales, que de tels projets ne manquent pas, bien sûr, d'attirer. Alors ce qui est certain au Karabakh, c'est que les intérêts des capitalistes se comptent en vie humaine, que les batailles de territoire n'ont d'autres victimes que dans notre classe. Alors une fois de plus, c'est leur guerre, nos morts, et on le répète jamais assez, mais mort à la guerre, mort au capitalisme.
Et ensuite, on va parler de l'impérialisme moderne avec Macron et le Liban.
Ouais, alors on pourrait intituler ce sujet « Le roi Macron et le Liban ». Alors pourquoi ? Macron a l'impression que le Liban, et plus précisément le système politique libanais, se doit de suivre ses multiples injonctions comme si c'était normal. En gros, depuis hier, les grands médias français, Le Monde en chef de file, en bon chien de garde du pouvoir, relaient les mécontentements du roi Macron. Je cite « Macron fustige la trahison des élites politiques libanaises ». Macron, qui depuis l'explosion catastrophique sur le port de Beyrouth il y a 2 mois maintenant, aurait tout fait pour arracher aux partis locaux une feuille de route, un calendrier de réforme, une méthodologie. Et oui, les principaux partis politiques libanais manqueraient de méthodologie. L'idée ici est simple. Pour Macron, il faut former un gouvernement technique, non élu, susceptible d'appliquer un certain nombre de réformes, ce qui permettrait de débloquer des fonds internationaux pour venir en aide à la population libanaise. Macron avait ordonné un délai de 15 jours à partir du 1er septembre pour former ce gouvernement de technocrates non élus, et ce délai n'a pas été respecté. Macron, qui va décidément très fort, en est même à remettre ouvertement en cause et en question le système multiconfessionnel politique libanais. Alors, petite explication, parce que ça va très très loin. Donc, le Liban, c'est un pays multiconfessionnel dont le pouvoir est divisé depuis la quasi-fin de la Seconde Guerre mondiale entre les maronites, les chiites et les sunnites, présidence de la République, présidence du Parlement, poste de Premier ministre. Système qui, d'ailleurs, déjà à l'époque, avait dû être validé par De Gaulle lui-même, le Liban étant sous tutelle française depuis la fin de l'Empire ottoman. Et depuis 1943 d'ailleurs, la France a toujours eu des liens plus que particuliers avec le Liban, de De Gaulle à Chirac, en passant par les amis franco-libanais hommes d'affaires de Sarkozy, et ce, en passant par Hollande, et bien sûr Macron, la preuve. Le Liban, l'une des cibles privilégiées du Fonds monétaire international et des puissances impérialistes, qui subit notamment depuis la crise de 2008 des politiques d'austérité drastiques qui ont privatisé à tour de bras les résidus de services publics et réduit à néant le peu de droits sociaux existants. Les dirigeants politiques actuels libanais sont dans l'ensemble les mêmes, tenez-vous bien, que sous Giscard d'Estaing, mais sont tous ultra corrompus et ont massivement détourné l'argent public et les prêts du FMI ou de la Banque mondiale. Par exemple, 2% des revenus des plus riches équivalent à 60% des revenus des plus pauvres, et la pauvreté touche aujourd'hui 75% de la population. Ce sont donc bien des pays comme la France, et prioritairement la France, et des institutions internationales comme le FMI, qui sont aujourd'hui responsables de la détresse de la population libanaise. Population qui l'a bien compris et qui s'insurge régulièrement, comme fin 2019 et surtout tous ces derniers mois. Population qui s'est également, elle, dépassée les divisions confessionnelles, comme ce fut le cas en avril-mai dernier, on en avait déjà longuement parlé. Macron donc, qui se veut le héros, le sauveur de l'après-catastrophe de Beyrouth, ou plutôt le professeur, le donneur de leçons de la démocratie, exige donc un gouvernement de technocrates. On sait ce que ça veut dire, des réformes capitalistes ultralibérales contre de l'aide, mettez-y des guillemets, financière, aide qui n'ira pas dans les poches de la majeure partie de la population pauvre. C'est déjà donc à cause de l'impérialisme français et occidental que cette population subit une telle situation, qui laisse un ministère et un gouvernement capable de laisser cette situation dans le port de Beyrouth et de faire exploser une telle masse et qui provoque la situation actuelle à Beyrouth. Nous, on sait ce qu'il faut, c'est soutenir ici en France, eh bien, ce sont les révoltés libanais, et ce qu'il nous faut combattre, c'est l'État français, son impérialisme et ses représentants.
Et enfin, aux États-Unis, que se cache-t-il derrière le mouvement Blue Lives Matter ?
Oui, alors on va commencer quand même par parler de Black Lives Matter, puisque la justice et la police aux États-Unis ne font toujours pas profil bas, et donc le mouvement Black Lives Matter sort renforcé d'une nouvelle aberration en la mort, pas récente du tout, de Breonna Taylor. C'était le 13 mars dernier. Alors, pourquoi c'est son nom qui résonnait dans les rues de New York, Washington, Boston, Philadelphie et bien d'autres villes américaines mercredi 23 septembre ? Eh bien, c'est parce qu'il a été annoncé qu'un des policiers responsables de sa mort était enfin poursuivi, mais pour un chef d'inculpation révoltant. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé le 13 mars ? Eh bien, trois policiers sont entrés dans la nuit dans le domicile de Breonna Taylor, qui est infirmière, avec un mandat d'arrêt qui leur autorise à entrer sans frapper. Lorsqu'ils sont entrés, le compagnon de Breonna leur a tiré dessus et il dira plus tard qu'il avait cru à un cambriolage. Les policiers, eux, disent s'être signalés avant d'entrer, ce que nie le compagnon de Breonna, mais le résultat, c'est que Breonna est morte dans son lit des balles des trois policiers qui ont tiré à l'intérieur de son logement. Les policiers avaient été temporairement suspendus et on sait maintenant qu'ils ne seront pas poursuivis pour homicide puisqu'ils sont autorisés à tirer en cas de légitime défense, et c'était apparemment le cas. Seulement l'un des trois est poursuivi pour quelque chose, et c'est pour mise en danger de la vie d'autrui pouvant causer des blessures graves ou la mort. Alors là, vous vous dites, c'est certainement un peu un euphémisme de parler de mise en danger quand quelqu'un est bien, bel et bien mort. Mais vous avez tort, puisqu'il n'est absolument pas poursuivi parce que quelqu'un est mort, mais parce que des balles sont arrivées dans les murs des voisins. Et donc là, oui, il y a bien mise en danger de la vie des voisins, mais c'est en effet insultant de poursuivre quelqu'un pour des balles dans le mur et pas pour la mort de quelqu'un. Une personne de couleur donc, je ne sais plus si je l'avais précisé. Et c'est donc ça qui a renvoyé les gens dans la rue. La tension ne cesse de grimper sur les violences policières envers les Noirs aux États-Unis. Cela fait maintenant 4 mois que George Floyd est mort, le 25 mai dernier, et qu'ont commencé des manifestations de masse quasiment continues, des occupations et aussi une escalade de la violence par arme à feu. En partie parce que des milices armées se sont montées et paradent toute la nuit en attirail militaire, officiellement pour empêcher des pillages pendant les périodes de couvre-feu instaurées un peu partout, en partie en réaction aux manifestations et en partie en réaction à la bonne vieille épidémie en cours. Ces parades étant plus que tolérées, on a eu le droit à plusieurs morts par balle sans même que la police ne soit impliquée. Rappelez-vous de cette personne qui a tiré en pleine rue sur 4 autres personnes, qui essayait de le désarmer et qui s'est ensuite fait royalement ignorer par le véhicule de police qui s'avançait dans la rue alors qu'il se dirigeait vers eux, les mains en l'air. Bref, gros clivage entre le mouvement Black Lives Matter et les pro-flics. Et je vous propose de saisir l'occasion pour s'attarder quelques secondes sur une entité du mouvement pro-flic. Une page Facebook actuellement nommée The Police Tribune, anciennement Blue Lives Matter, soit les vides flics comptent. C'est une page qui s'indigne contre une soi-disant clémence de la justice envers les délinquants et sur laquelle la réalité est régulièrement tronquée, voire déformée. Un article a par exemple fait croire que Jacob Blake, dont vous vous souvenez peut-être et qui s'était fait tirer dessus à bout portant à 7 reprises par un policier, et donc il était armé à ce moment, ce qui est complètement faux. Bref, un instrument de propagande pro-flic qui est malheureusement très influent puisque la page compte plus de 2 millions d'abonnés. Petit fun fact, cette page ne serait pas qu'un simple instrument de propagande, mais une entreprise qui fait de l'argent grâce à la pub que génère cette page par des annonceurs, mais surtout pour des t-shirts avec des messages un peu dégueulasses que je vous laisse imaginer. Mais pour vous dire le niveau, on est sur du complotisme plutôt copain avec les délinquants sexuels, dont un par exemple qui dit que c'est le couple Clinton qui a assassiné Jeffrey Epstein. Et bref, cette entreprise de t-shirts serait partenaire de cette page. Et elle est enregistrée dans le Delaware, plutôt connu comme un paradis fiscal aux États-Unis, ce qui veut dire que des gens se font de l'argent et peut-être bien beaucoup sur la désinformation pro-flic. Et pour finir, et surtout pour remettre les choses en place, il va suffire de suivre ce qui s'est passé lors de la manifestation de mercredi pour Breonna Taylor, puisqu'à cette manifestation, 2 policiers ont été blessés par balle. Un suspect a été interpellé. Selon The Police Tribune, il ne va rien lui arriver. On en doute, affaire à suivre.
Et maintenant, on va écouter un morceau qui est un appel à squatter le quartier de Neukölln à Berlin contre sa gentrification et son Airbnbisation. C'est yes. Le morceau Das Haus wird besetzt du groupe PTK.
Ich wollte auch mein ganzes Leben lang nur wissen, wo mein Platz ist. Aber ihr verliert beim Suchen mit dem Blick aufs große Ganze. Die Details aus den Augen, ich bin euer Mikroskop. Neuzeitphilosoph, Kreuzberg bis zum Tod. Der Erfolg meiner Mission sind keine Euros in Millionen. Ich hab euch den Weg zum Feind gezeigt, will euch Munition. Lass mich am Ende nicht sagen, dass ich umsonst so weit gegangen bin. Keiner der Gefangenen, vergleich mich nicht mit anderen. Und wenn, dann komm mir nicht mit physischen Schwächen. Die Muskeln, die ich trainiere, sind auf einem lyrischen Level. Wunder dich nicht, wenn du streitest und Fitness dich nicht weit bringt. Denn wir sind hier in der Stadt, wo man was Spitzes in seinen Hals kriegt. Ich bin nicht für Gewalt, wofür ich bin, das ist gewaltig. Die Szene langweilt mich, denn jeder beschreibt sich als was Einzigartiges. Doch Rapper sind von A bis Z auf einer Seite alle gleich wie ein Kartendeck. PTK ist im Haus und du weißt, dann wird das besetzt. Ich bin nicht nur im Haus, ich bin der scheiß Architekt. Der gefährlichste Rapper, denn der ehrlichste Rapper. Und die anderen sind nichts mehr als nur Rapper. PTK ist im Haus und das Haus wird besetzt. Besetzt. Kreuzberg steigt deutschlandweit, Hauptstadt des Raps. Der gefährlichste Rapper, denn der ehrlichste Rapper. Wer stellt Message über alles? PTK, PTK, die ältesten Texte des Landes. PTK, PTK, das Versprechen eines Mannes. PTK, 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 PTK. Denn zusammen ist man stärker und das echte Leben testet jeden Treff. Deswegen täglich neue Leute muss mein Netzwerk pflegen. Bündel die Talente gegen, was sie mit Gesetzen regeln. Wenn dir die Connections fehlen, kann ich dir Adressen geben. In meinen Texten geht es nie um, wer ist hier der Beste. Es geht um Behördengänge und gefälschte Dokumente. Es gibt immer einen Weg, wenn sie verhindern, dass er doch bleibt. Doch bleibt. Dann arrangieren wir eine Hochzeit und will dein Vermieter morgen. Deine Butzeräumen stehen heute noch vor seiner, ein paar vermummte Leute. PTK ist im Gebäude und sowas auf Songs zu rappen ist vielleicht nicht grad.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et vous écoutez le Canu Info du lundi.
Coupure un peu sèche, mais qui nous permet d'avoir une bonne transition donc sur le nouvel amendement anti-squat, puisque nous passons au...
National.
Donc voilà, aujourd'hui donc au National, un amendement anti-squat puisque c'est la petite pépite antisociale de cette rentrée. Eh bien, un amendement d'une loi, alors loi qui s'appelle la loi ASAP, A-S-A-P, qui veut dire accélération et simplification de l'action publique. Alors, ça vend toujours, toujours du rêve, hein, quand il y a des termes qui signifient accélération et simplification de l'action publique, notamment de manière générale. L'objectif de cette loi, j'ai regardé vite fait, hein, c'est la dématérialisation de très nombreuses procédures. Comprenez, ce qui permettra de supprimer énormément de postes dans la fonction publique. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, donc, c'est cet amendement anti-squat. Alors, c'est lié à l'article 30 ter, donc renforcement de la lutte contre les squats et surtout les squatteurs. Pourquoi ? Eh bien, c'est issu d'un petit fait divers de la fin du mois d'août. Un couple de retraités apprennent, dites-vous bien, que leur résidence secondaire est occupée par une famille.
Oh non.
Très très méchant squatteur, une famille avec des enfants. Scandale. Les propriétaires ont été, dites-vous bien à nouveau, mis à la rue. Les propriétaires sont donc des victimes, à la fois des squatteurs, mais aussi des procédures jugées beaucoup trop laxistes. Heureusement, les macronistes parlementaires sont là. Ils ont un amendement à porter à la loi ASAP, et pas des moindres. Cet amendement va renforcer la possibilité de poursuivre des squatteurs d'une peine passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Alors, depuis 2015, c'était déjà le cas pour occupation du domicile d'autrui. Donc, tu vas chez quelqu'un, c'est son domicile principal, il n'est pas là, tu occupes, tu peux apprendre un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende, au-delà même du cambriolage. Dorénavant, ce sera également pour les résidences secondaires ou dites occasionnelles. Donc, t'es proprio, tu mets un petit matelas par terre et tu dis que tu dors une fois par an dans ton bâtiment vide, et bien, ça pourrait peut-être marcher. En tout cas, c'est un vrai, vrai gros risque. L'autre gros point, c'est que les préfets vont avoir un pouvoir considérablement augmenté en termes d'expulsion, aux dépens des tribunaux et des juges, puisqu'un préfet pourra ordonner une mise en demeure et donc une expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande du propriétaire. Cette décision n'est donc du mythe que les procédures sont trop longues, alors que bien souvent les expulsions sont très rapides et illégales, ou même que les procédures ont une moyenne globalement d'un mois, ce qui n'est pas si long pour des bâtiments qui sont vides. Rappelons que 10% des logements et des bâtiments sont vacants dans le parc immobilier à l'échelle nationale. Dès demain, il va y avoir un certain nombre de mobilisations dans des villes de France. Alors malheureusement pas à Lyon, mais en tout cas, on vous racontera s'il y a des mobilisations à suivre sur cet amendement. Et n'oubliez pas qu'un squat de fermé, c'est 10 squats de réouvert.
Et cet amendement n'est pas la seule pépite de la rentrée, puisqu'il n'y a pas que squatter qui va devenir difficile grâce à la loi Nogal, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et qui prévoit la mise en place d'une base de données avec tous les locataires qui ont une dette qui serait supérieure à 3 mois de loyer. Cette base de données, elle est mise en place à l'initiative de la Fédération nationale de l'immobilier. Elle est financée par un consortium de professionnels de l'immobilier et elle est même soutenue par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et elle sera mise à disposition des professionnels de l'immobilier pour leur permettre de mieux trier leurs locataires, comme s'ils n'avaient pas déjà ce qu'ils ont besoin de
comme de si ça, ça avait... finalement.
Oui, voilà.
S'ils avaient besoin de ça.
Les personnes fichées le resteront jusqu'au paiement de la dette. Et une loi qui est censée, selon le député La République En Marche, qui en est à l'origine, restaurer la confiance entre propriétaires et locataires, mais qui aura plutôt comme effet d'exclure encore plus les pauvres d'un marché locatif déjà bien sélectif.
Alors ça, c'est les cadeaux de l'État pour les propriétaires. Mais que fait l'État pour les licenciés de Bridgestone ?
Oui, le fabricant de pneus japonais Bridgestone a annoncé la fermeture de son usine de pneus à Béthune, menaçant ainsi l'emploi de rien de moins que 863 salariés, sans parler des centaines de sous-traitants. Face à cette situation, hauts fonctionnaires et politiciens font mine de s'apitoyer sur le sort des salariés. Malgré les appels à reprise de certains ministres du gouvernement et d'élus de la région des Hauts-de-France, la direction du groupe a confirmé lundi dernier par communiqué la fermeture définitive du site, remettant ainsi en cause l'accord de méthode signé avec l'intersyndicale qui prévoyait un délai de 5 mois pour envisager des scénarios alternatifs. De toute manière, les indignations du gouvernement arrivent trop tard et elles puent l'hypocrisie, puisque cette situation est le résultat de leur politique néolibérale menée depuis 30 ans. Que ce soit à coup de crédit d'impôt, de subventions directes, d'exonération fiscale ou de baisse de cotisations sociales, tout a été fait pour baisser le coût du travail pour les multinationales, tout ça avec l'illusion que cet argent donné par l'État finisse magiquement par ruisseler sur la population sous forme d'emploi. La doctrine de l'offre, donc, qu'appliquent nos dirigeants, consiste à verser des millions d'euros d'argent public aux grosses entreprises, parce qu'une croyance économique qui s'appelle le capitalisme estime qu'en donnant plus de moyens aux employeurs, ceux-ci vont créer plus d'emplois. La bonne blague.
Comme le CICE. Ouais.
C'est la même chose. Mais C'est con, hein, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ça fait longtemps que la main invisible a été prise, la main dans le sac. Car...
Ah ouais, bravo.
Car pour les entreprises aujourd'hui, à l'heure de la dématérialisation des capitaux, à l'heure de la mondialisation financiarisée, le taux de profit n'est pas qu'une affaire de production réelle, durablement ancrée dans un territoire. Non, pas du tout. Ce qui compte aujourd'hui pour les multinationales, c'est plutôt d'optimiser, dans un lieu et à un moment donné, les conditions favorables à l'accroissement de leur propre taux de profit, jusqu'à ce que cela devienne plus intéressant ailleurs. Et alors, fiou, on met les voiles, on met la clé sous la porte et on se casse. Sauf que, quand on en est là, bah, c'est des milliers de salariés qui font les frais sociaux des chèques en blanc signés par nos gouvernements. Revenons à l'exemple concret de Bridgestone. La société japonaise a touché des millions d'euros. Je note. 620 000 euros d'aide régionale. 1,2 million d'euros donné par la communauté d'agglomération de Béthune, 500 000 euros de fonds européens, 1,8 million dans le cadre du CICE, et j'en passe. Mais alors, si les grands groupes disparaissent aussi vite que quand ils sont venus, sans avoir aucun compte à rendre, je comprends pas. On peut quand même se demander à quoi servent les cadeaux fiscaux, à quoi servent les milliards d'euros du CICE, dépensés les milliards de subventions publiques. Politique d'attractivité, pour attirer les investisseurs, diront les uns. Non, destruction créatrice, diront les autres. Non, laissez-nous rire. Plus personne ne peut sérieusement croire que c'est en faisant des cadeaux aux grandes entreprises qu'on crée de l'emploi. Au contraire, tout ce qu'on leur offre, réforme du marché du travail, subventions, baisse de cotisations, tout ça, ça fait qu'accroître leur propre rendement sans que l'État n'ait aucune influence sur leur choix de délocalisation. Le problème de l'emploi est donc un enjeu de taille. Mais pour pas tomber dans des logiques purement productivistes, il faut surtout passer de la lutte pour la préservation de l'emploi à la question de savoir de quel emploi nous voulons, selon quel régime de production et surtout en rapport avec quels besoins. Pour rappel, les plans sociaux lancés depuis le début de la crise sanitaire menacent, selon Mediapart, 50 000 emplois en France au sein de 137 entreprises dans 57 départements. Tout ça depuis le début de la crise sanitaire. Parmi les secteurs les plus touchés, il y a les transports aériens, l'aéronautique, l'automobile et le commerce. Et que fait le gouvernement face à cette crise qui ne fait en réalité que débuter? Son plan de relance, il est entièrement fondé sur la fameuse politique de l'offre qui répond exactement aux demandes patronales. Et donc, le plan de relance consiste à offrir 100 milliards d'euros d'aide pour les entreprises. Merci patron. Il faudra donc compter que sur nous-mêmes pour penser collectivement l'avenir de nos activités et pour retrouver d'autres solutions loin des impératifs de compétitivité et de croissance.
Et pour toutes celles et ceux qui n'arriveraient pas à ouvrir de squat ou à trouver de location, ils peuvent se rendre à l'hôtel Ibis des Batignolles où la lutte continue.
Excellent, oui. Alors, puisqu'il y a depuis plus d'un an une grève ultra majoritaire des femmes de chambre, des gouvernantes et des équipiers de la sous-traitance STN, donc à l'hôtel Batignolles, Ibis. Elles ont fait une fête ce samedi, une fête notamment pour rappeler qu'elles ont besoin de thunes pour tenir. Alors, elles sont donc en grève plus précisément depuis le 17 juillet 2019 avec le soutien des camarades de la CGT HPE, syndicat de classe, des hôtels de prestige et économique. Dans cet Ibis, porte de Clichy, une fois n'est pas coutume, règne, je cite, l'inégalité de traitement pour les salariés de la sous-traitance qui ne bénéficient pas du même statut social que les salariés embauchés directement par Ibis Batignolles, que ce soit en termes d'indemnité, nourriture, d'intéressement, de participation, primes diverses et bien sûr, salaire moins élevé. Plus grave encore, la société STN pratique avec la complicité de l'hôtelier le travail dissimulé avec des cadences quasi impossibles à respecter et le sous-paiement, bien sûr, des dépassements horaires. La société STN fait depuis un an la sourde oreille, d'où la revendication principale des grévistes. L'internalisation à l'Ibis Batignolles et l'amélioration de leur statut social. Rappelons que derrière Ibis, il y a le groupe Accor. Donc Accor possède Ibis, Novotel, Mercure, Sofitel, Pullman et d'autres encore. C'est le sixième groupe hôtelier au monde. Donc, il a les moyens d'embaucher les salariés de la sous-traitance directement. Les grévistes ne lâcheront rien. Il existe d'ailleurs une caisse de grève que vous pouvez alimenter, que vous trouverez sur le site de la CGT-HPE.
Et bon qu'on mettra également sur notre blog, ainsi qu'un petit reportage qu'on était allé faire directement sur le piquet de grève des femmes de chambre l'hiver dernier.
Il sera chargé ce blog. Et on enchaîne avec Lubrizol, puisqu'on fête un anniversaire.
Et oui, les Rouennaises et les Rouennais fêtaient ce week-end l'anniversaire des 10 000 tonnes de produits chimiques partis en fumée il y a un an, le 26 septembre 2019, suite à l'incendie des usines Normandie Logistique et Lubrizol. Un accident qui avait créé un nuage de suie de fibres d'amiante polluant terres et eaux de toute la région, ainsi que les poumons des habitants. À l'occasion de cet anniversaire, Warren Buffett, multimilliardaire et propriétaire de Lubrizol, n'avait malheureusement pas prévu de nouveaux feux d'artifice. La manifestation organisée par le collectif Unitaire, elle, a rassemblé un bon millier de syndicalistes CGT et Sud, intérimaires, gilets jaunes et associations écologistes au cri de « Lubrizol coupable, État complice ». La manifestation s'est d'ailleurs détournée de son parcours autorisé pour aller soutenir la vingtaine de militants d'Extinction Rébellion qui ont bloqué la circulation du centre de la ville en s'arrimant au pont Jeanne d'Arc grâce à des armes-blocs, occupant ainsi les policiers toute l'après-midi à les libérer à l'aide de disqueuses. Invité d'honneur de cet anniversaire, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celle de la Transition écologique Barbara Pompili ont offert comme cadeau aux habitants de la ville des mesures à la hauteur de la situation. Désormais, si une nouvelle catastrophe industrielle avait lieu, les habitants seraient alertés grâce à un SMS qui sonnerait même lorsque leur téléphone serait en mode silencieux et la liste des produits toxiques présents sur le site de l'entreprise serait publiée immédiatement. Bref, comme le dit un maraîcher du coin, le monde de l'industrie tremble devant la perspective d'une modification de l'annexe 6B de la circulaire 0034 NFX. Depuis un an, ni les dirigeants de Lubrizol et de Normandie Logistique, ni le préfet n'ont été remis en cause dans leur position de pouvoir, et il ne suffit sans doute pas de réclamer plus de moyens de surveillance ou plus de transparence. À l'occasion de ce week-end de mobilisation, une plateforme d'autodéfense populaire face aux dangers industriels, Notre Maison Brûle, a été mise en place. Ses membres tentent de s'organiser pour rendre visible l'intoxication dont sont coupables les capitalistes industriels, en premier lieu des travailleurs et des travailleuses de ces usines, et tente de remettre en question l'utilité sociale de ces industries dangereuses qui se font de l'argent sur nos vies. Un an plus tard, Lubrizol ne brûle plus, mais notre colère, elle, ne s'éteindra pas.
On enchaîne pour voir ce qui se passe dans les CRA en ce moment.
Oui, des tests Covid dans les CRA, désormais, il y en a, mais c'est pas pour les bonnes raisons, puisque certains pays demandent à toute personne qui arriverait sur son territoire de fournir un test Covid négatif datant de 2 jours avant le vol. Bref, c'est donc pas pour des raisons sanitaires, c'est encore moins parce qu'on se soucierait de la santé des personnes enfermées, mais c'est bien un préalable pour mieux être expulsé qu'on a un test. La machine à expulser fonctionne très bien. Les conséquences sont absurdes. Il s'agit donc maintenant de refuser un test, puisque cela peut permettre d'empêcher l'expulsion. Il faut donc, si on comprend bien, mettre en péril sa propre santé pour éviter de se faire déporter, c'est logique. Mais cela n'est pas sans danger, puisque un refus de test peut valoir comme tentative de soustraction à une mesure d'éloignement et donc entraîner des poursuites pénales, comme des gardes à vue ou même de la prison ferme. Pendant ce temps, les reprises des expulsions vers certains pays ont donc continué, vous l'avez compris, malgré la fermeture des frontières, que ce soit vers l'Union européenne ou en dehors, vers la Tunisie, l'Égypte, le Cameroun. Et dans ce contexte, rappelons que l'un des mots d'ordre de la marche nationale des sans-papiers, qui vient de commencer, est la fermeture des centres de rétention.
Et nouveau suicide à l'université, à Montpellier cette fois-ci, celui d'une étudiante trans, Douna.
Donc on va vous lire un très très court communiqué que vous pourrez lire en entier sur le blog des guerrières, lesguerrières.wordpress.com, qui s'appelle « La réalité de la transmisogynie ». Donc je vous lis vraiment un court extrait. Le 23 septembre 2020, notre sœur Douna s'est suicidée. Quelques heures après une menace d'expulsion de son logement d'étudiant de la part du Crous. Douna était une jeune femme trans de 19 ans qui aimait jouer aux jeux vidéo. Elle avait, comme tant d'autres femmes trans qui n'ont d'autre choix que de se plier face à l'oppression ou d'y résister, une verve militante. Elle aidait volontiers ses amis et espérait avoir une copine avec qui partager une belle histoire d'amour. À 19 ans, on doit avoir la vie devant soi. Douna aurait dû avoir la vie devant elle, mais Douna est morte trop jeune, comme c'est le cas pour de nombreuses femmes trans dans notre société transphobe. Le cissexisme est un système organisé. La peur, la haine, le harcèlement, les meurtres, les assassinats et les agressions des personnes trans sont des comportements absolument normaux dans nos sociétés structurellement transphobes. Le Crous de Montpellier a poussé Douna au suicide. Les journaux qui l'ont présenté comme un homme après son décès ont sali sa mémoire. Elle, Laura, Mathilde et toutes les autres ont été victimes de meurtres transmisogynes de la part de l'État français. Pas d'oubli, pas de pardon. Et donc, allez lire le texte en entier.
Et en hommage, on écoute tout de suite la chanson I Am Her de la chanteuse trans afro-américaine She Diamond.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too.
There's a dark
Even I can believe there's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et vous venez d'écouter I Am Her de She Diamond sur le Radio Canu, Canu Info du lundi.
Local.
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 Et on passe tout de suite à l'interview puisqu'on accueille aujourd'hui dans le studio des membres du collectif des sans-papiers 69 à l'occasion de la marche des solidarités qui est partie le 19 septembre de Marseille et qui passera par Lyon ce week-end. Donc on accueille dans le studio Banjan, Majda et Sana. Merci à vous d'être ici.
Merci à vous aussi.
Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez commencer par présenter ce que c'est que le CSP 69, le collectif des sans-papiers 69, un petit peu. Allez-y.
D'accord. Ben, le collectif des sans-papiers de Lyon est né dans le cadre de la mobilisation nationale pour une régularisation sans exception de tous les de toute personne qui n'est pas ou bien qui a un cadre administratif illégal. Et normalement, c'est un collectif qui est né réellement juste après les deux grandes manifestations du 30 juin et plutôt du 30 mai et du 20 juin. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions que vous faites depuis, avant de nous parler de la marche des solidarités? Est-ce que vous...
Ben, les actions, on peut commencer bien sûr par la première manifestation, celle du 30 mai. Par la suite, on a pensé à faire une autre manifestation, c'était le 20 juin. Mais à part ça, on a fait un rassemblement à l'hôtel de ville. C'était exactement le 10 juillet. Et dernièrement, à notre rassemblement à la place de Guichard, c'était le 19 septembre pour célébrer et déclarer officiellement le départ de la marche des villes de Sud.
Alors justement, ça nous fait arriver à la marche des solidarités, donc qui est partie ce 19 septembre de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste, qui en est à l'initiative?
Donc, comme elle a si bien dit, en fait, cette marche, c'est suite à... aux deux grandes mobilisations qui ont eu lieu à Paris. La première, c'était le 30 mai. On savait que les sans-papiers ont bravé l'interdiction que le gouvernement avait interdit la mobilisation, même bien que ça, ils ont manifesté. Donc après, le 20 juin, il y a eu un deuxième appel dont presque toute la France a répondu. Donc à Lyon aussi, on a manifesté le 20 juin. Donc suite à cela, on a essayé de mettre en place maintenant un collectif au niveau de Lyon pour répondre à l'appel lancé par les collectifs de Paris pour la masse des solidarités. Donc, nos revendications de cette masse, c'est pour réellement réclamer la régularisation de tous les sans-papiers sans exception, la fermeture de tous les centres de rétention administrative et en même temps le relogement de tous ceux qui se trouvent en France et qui ne sont pas logés. Donc, ce sont nos trois principales revendications pour le moment.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles villes sont concernées par cette ce départ de marche, puisque c'est un échelon relativement national?
Oui, en fait, la marche, le départ c'était le 19, comme elle a assez bien dit, le 19, on a organisé un rassemblement au niveau de la place Guichard pour annoncer cela. Eux, les marcheurs sont partis. On a à Marseille, on a Rennes, on a Toulouse, on a Lille, Strasbourg, Montpellier, Bayonne, Grenoble, Le Havre et Nancy. Ce sont des lieux de départ. Marseille et Montpellier se sont rencontrés à Avignon. Là, ils sont en direction pour Lyon.
Ok, alors, tu nous as parlé un petit peu des revendications de la marche. Finalement, c'est quoi vos attentes avec cette marche? Qu'est-ce que vous voulez démontrer, dénoncer par ce biais? Et pourquoi utiliser ce mode d'action-là?
D'accord. Du coup, pourquoi on a organisé le collectif Sans Papier et pourquoi on a organisé la Grande Marche Nationale? Parce que Macron n'a toujours pas répondu à nos demandes. Et aussi le gouvernement français met toujours des obstacles devant les personnes qui sont en situation irrégulière. Et je veux donner les catégories des sans-papiers. Il y a beaucoup de catégories, comme les travailleurs déclarés et non déclarés, les familles, les enfants mineurs qui ne sont pas scolarisés, les enfants qui sont nés en France, les étudiants, les personnes qui sont malades, les femmes enceintes, les personnes qui ont des RCPC sans autorisation de travail, les personnes qui ne travaillent pas, les demandeurs d'asile, les personnes qui ont les QTF, les personnes diplômées qui ont des capacités incroyables, et la France qui a besoin de ce genre de personnes, même les personnes non diplômées qui travaillent tous les types de jobs difficiles sous la pression et l'insulte. Du coup, on attend quoi après la grande marche? On attend la régularisation. De trouver une solution pour avoir une vie décente sans injustice et avoir le droit de travailler. On veut vivre comme tous les autres humains et avoir les mêmes droits. On dit que la France, c'est la terre de la justice, donc on demande de mettre fin à la discrimination et au racisme. On demande la justice humaine. On demande d'arrêter la précarité et l'exploitation des sans-papiers.
Alors, c'est une bien belle liste de revendications. Est-ce que vous avez le soutien d'organisations politiques, syndicales ou associatives, ou est-ce que vous organisez plutôt entre collectifs à l'échelle nationale?
Oui, le marche d'abord, c'était la marche, c'est l'appel à des collectifs. Presque, il y a une vingtaine de collectifs qui sont signataires de cette marche et plus de 200 organisations à l'échelle nationale et locale qui soutiennent la marche. Je ne peux pas en citer tout, mais tel qu'on a Solidaires qui soutiennent, on a la CIMAD qui soutiennent, on a la CGT qui soutiennent, et même tout dernièrement la France Insoumise aussi qui soutiennent la masse. Et encore, on a une centaine de députés aussi qui soutiennent la masse. Donc, il y a plusieurs organisations qui soutiennent la masse. Ce n'est pas que des collectifs qui font ça.
Okay, ouais, la marche, elle a l'initiative des collectifs de sans-papiers, soutenue par plein d'organisations, plein d'associations. Peut-être juste nous dire combien il y a de marcheurs qui sont partis de Marseille et qui sont actuellement sur la route. Je crois savoir aussi que les marcheurs et qu'il y a des marcheurs qui arrivent de Grenoble.
D'accord. On a 55 de Sud, marcheurs de Sud. On a 22 marcheurs de Grenoble. Et on a 70 marcheurs arrivent de Vienne.
Ok, et il y a des gens qui vont rejoindre la marche à partir de Lyon, du coup, qui vont commencer la marche à Lyon?
À partir de 1er octobre, il y a les marcheurs de Marseille. Ils vont venir ici à Vinicieux et on va faire rassemblement au marché de Minguette. Et le lendemain, 2 octobre, les marcheurs de Grenoble ils arrivent et on va faire rassemblement à 16h devant le CRA, Saint-Exupéry. Et on va faire une grande manifestation samedi 3 octobre à 14h30, Bellecour, pour accueillir les marcheurs venant de Marseille, Grenoble, Vienne,
organisée par le collectif Sans Papiers de Lyon 69 et toutes les associations qu'on a données. Et le dimanche 4 octobre, on va faire rassemblement à Part-Dieu pour continuer la marche vers Paris.
Alors là, c'est bien, il y a des événements tous les jours. Pourquoi est-ce que tu parlais de CRA ? Alors peut-être pour préciser, le CRA, c'est le centre de rétention administrative. Pourquoi c'est important de faire un rassemblement devant un CRA, là, ce week-end, au moment de la marche ? Pourquoi c'est important pour vous ?
Enfin, c'est important pour nous parce que ça fait partie de notre revendication. Donc là, on a décidé de faire un rassemblement au niveau du centre de rétention administrative, montre réellement ce que les étrangers en subissent parce que, bien qu'avec cette situation sanitaire, il y a d'autres encore qui sont à l'intérieur et on sait qu'il n'y a pas les mesures de distanciation sociale et tout ce qui va avec ne sont pas respectées. Et c'est pour dénoncer cela et en même temps montrer la condition de vie et la non-est pour montrer que nous sommes réellement opposés à l'expulsion des personnes qui sont en situation irrégulière en France et en même temps pour dénoncer encore la construction de nouveaux centres de rétention qui est en cours. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire un rassemblement au niveau de Saint-Exupéry.
Alors peut-être on le rappelle, ce rassemblement donc c'est vendredi à partir de 16h.
Oui. Voilà.
Et oui, parce qu'on en a déjà parlé ici, mais apparemment, il n'y a pas assez de place au CRA de Saint-Exupéry. Et donc, ils vont construire un nouveau CRA juste derrière, à côté, pour augmenter la capacité d'accueil et enfermer, une fois de plus, des personnes en situation irrégulière du simple fait de leur situation administrative. Peut-être rappeler un petit peu les différentes dates du week-end pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde.
Donc, on rappelle qu'il y aura un rassemblement donc jeudi 1er octobre à 17h à Vénissieux. C'est l'arrivée des marcheurs et des marcheuses de Marseille. Ce sera au marché des Minguettes, rue Président Édouard Herriot à Vénissieux. Le 2 octobre, on vient de vous le dire, le vendredi, à partir de 16h, devant le centre de rétention administrative de Saint-Exupéry, l'arrivée des marcheurs de Grenoble. C'est RDV, rue du Royaume-Uni, Colombier, Saunieux. Le samedi 3 octobre, grande manifestation pour accueillir les marcheurs et surtout pour réclamer la régularisation de tous et toutes les sans-papiers, quelle que soit leur situation, 14h30 à Bellecour. Et le dimanche 4, il y aura donc le rassemblement à Part-Dieu pour continuer la marche vers Paris, pour leur souhaiter bonne marche. Le rendez-vous sera à venir, n'hésitez pas à suivre sur leur Facebook ou sur Rébellion tous ces différents rendez-vous.
Est-ce qu'il y a des besoins encore pour l'organisation ? Parce que je crois qu'il manquait encore un petit peu des logements ou des choses comme ça. Est-ce que...
Oui, là, on a... Parce que hier, parce qu'on a fait beaucoup de travail parce qu'il fallait qu'on règle certains points parce que on n'avait pas complètement fini le travail. Donc là, à notre grande surprise, on apprend que il y a d'autres aussi qui viendront, qui n'étaient pas prévus dans les chiffres qu'on a donnés, qui viendront de Paris et d'autres régions à Lyon pour continuer la marche avec les autres. Donc il faudrait qu'on trouve hébergement pour ces gens-là qu'on n'avait pas encore traité. Donc là, c'est un point. Et en même temps, au niveau de Villefranche, Villeneuve. Donc, la dame qui s'était engagée à héberger, en même temps nourrir tous les marcheurs, donc finalement, elle dit qu'elle ne peut loger et nourrir que 30 personnes. Donc, au-delà de là, elle n'a pas la capacité. Donc, on vient de recevoir cette nouvelle aussi. Donc, sur Villeneuve aussi, on est en train de chercher s'il y a des personnes solidaires qui peuvent organiser ça pour la nourriture, pour l'hébergement. Sinon, ça nous met dans une situation un peu délicate.
On mettra les informations pour les besoins qu'il y a encore un peu, si vous voulez donner un coup de main pour la marche, sur notre blog. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook du CSP 69, de la Marche des Solidarités, pour voir les besoins qu'il y a encore.
Encore, on a une cagnotte.
Ouais. Oui, une canne à place, ouais. C'est vrai qu'on a aussi, parce que le 17 aussi, automne, vu que c'est la grande mobilisation à Paris, donc on a prévu aussi les personnes qui, pour se déplacer, pour aller à Paris, ceux qui n'ont pas pu marcher, donc toujours en renfort. Donc au niveau de Paris, donc il y a des bus, qu'on a prévu de mettre les bus, mais sauf que le collectif, c'est un tout nouveau collectif. Donc, les moins de on n'a pas moins de financiers. Donc, il y a une cagnotte en place qui, peut-être, si les gens donnent un peu, ça nous permettra de louer les bus, mettre à la disposition des sans-papiers, des personnes qui n'ont pas de moins, pour aller se rendre à Paris le 17, aller-retour.
Oui, la cagnotte, vous pouvez la retrouver sur le site cotisup.com. C'est marche-csp69. On mettra aussi le lien sur le blog. Et vous pouvez trouver toutes ces infos sur la page Facebook du CSP si jamais vous oubliez d'aller voir notre blog.
Et si vous connaissez des sans-papiers intéressés et qui ont besoin de coups de main, n'hésitez pas aussi à contacter le CSP69.
Oui. Ouais. On vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre. On invite tous les auditeurs à venir massivement aux différentes mobilisations de ce week-end, particulièrement la manif de samedi qui, je l'espère, sera massive. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la fin de l'organisation de l'accueil des marcheurs.
Merci.
Et on vous remercie aussi de nous avoir invités pour nous exprimer, pour que les personnes puissent nous attendre enfin.
Avec grand plaisir. Nous aussi, on vous remercie d'être venus.
Okay, merci à vous.
On a peut-être juste le temps de rappeler un autre rendez-vous. On vous a parlé de Douna, donc l'étudiante trans qui s'est suicidée à Montpellier. Et il y a des rassemblements un peu partout en France et à Lyon. C'est demain à 12h devant le siège social du Crous, qui est 59 rue de la Madeleine dans le 7e. Donc c'est un rassemblement contre la transphobie et la précarité étudiante. Et puis après, n'oubliez pas tous les rendez-vous du week-end liés à la marche et surtout le rassemblement devant le CRA de Saint-Exupéry. On rappelle, c'est à Colombier-Saunieu à 16h, rue du Royaume-Uni. Vous pouvez y accéder par le bus 47 aussi.
Et on a fini pour aujourd'hui.
Je crois que c'est bon.
On vous dit à lundi prochain.
Bonne soirée. Lundi prochain et surtout cette semaine dans la rue.
Voilà. Jacques.